Qu'est-ce qui se passe-t-il quand le feu brûle? Que se passe-t-il, pardon? Ah, ça chauffe. Ça chauffe. Est-ce qu'on est prêt à que nos cœurs chauffent? Est-ce qu'on est prêt à que le Seigneur puisse encore ce soir brûler ce qui n'a pas lieu d'être, purifier ce qui doit demeurer? Parce que parfois, nous, on a tendance à faire du mélange. Mais avec le Seigneur, il n'y a pas de mélange, vous savez. D'ailleurs, je vous propose de faire une lecture un peu particulière. Quand j'ai commencé à méditer sur ce texte, j'ai été un peu surpris en me disant, Seigneur, mais c'est quand même étonnant de ta part les réponses que tu donnes. Et en même temps, si on veut marcher avec le Seigneur, c'est d'une manière entière. Je crois que Jésus a été entier. Il est toujours entier dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit. Et on ne peut pas faire autrement que nous aussi être entier. Alors ça coûte. Ça coûte d'être entier, non? Ça coûte de demeurer entier et droit selon ce que la parole de Dieu nous enseigne. Mais c'est la seule manière, en réalité, pour nous approcher du Seigneur. Parce que quand on fait les choses avec des compromis, on s'éloigne de Dieu. On s'éloigne de Christ. On s'éloigne de tout ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et dès que finalement on saisit et qu'on revient et qu'on a cette attitude de revenir à ce qui est droit, mais Dieu nous relève. Amen. Alors, j'aimerais ce soir partager avec vous quelques versets de l'évangile de Luc au chapitre 9 à partir du verset 57. Et comme on a chanté tout à l'heure, quand le feu du réveil vient, on brase, mais en même temps, le Seigneur a pour but de consumer ce qui ne doit pas rester. On ne s'est pas concerté avec Marc, ni dans le choix des chants, ni dans le thème du message, mais je crois toujours dans la direction du Saint-Esprit qui sait ce qu'il fait, il sait comment il doit le faire. Amen. Pendant qu'ils étaient en chemin, quelqu'un lui dit « Je te suivrai partout où tu iras ». Très belle déclaration. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Étrange la réponse de Jésus. Il dit à un autre, suis-moi. Là c'est Jésus qui invite quelqu'un. Et il répondit, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus leur dit, laissez les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Et Jésus lui répondit, « Quiconque met à la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. » Amen. Trois cas de figure, trois situations, trois moments particuliers. Le premier, c'est quelqu'un qui s'approche de Jésus avec cet élan du cœur. « Je te suivrai partout où tu iras. » Alors, je me suis surpris par cette phrase à dire, mais combien l'ont déjà dit? Combien ont déclaré ça, même peut-être le jour de leur baptême? « Seigneur, je te suivrai où tu veux. Je ferai ce que tu veux. Hein » Et Jésus a une réponse pour cet homme. Alors, le but, ce n'est pas de le décourager, pas du tout, parce que le Seigneur nous encourage, mais il nous encourage dans la vérité. Le Seigneur ne veut pas entretenir quelque chose qui n'est pas bon pour notre vie. Alors, en lisant ce texte, je me suis dit, Seigneur, mais pourquoi cette réponse? Et j'ai commencé à méditer dessus et je voyais un peu cet homme comme quelqu'un qui agit sur le coup de l'émotionnel. L'émotion. Suite à l'émotion, Jésus, je suis prêt à te suivre. Vous savez, un moment très fort, voir Jésus accomplir des miracles, ça a dû certainement bouleverser des cœurs. Tenez compte que c'était une période où il n'y avait pas de miracle. Il n'y avait pas une telle puissance, une telle action de Dieu. Et pourtant, le peuple juif avait prié, il priait Dieu, ils offraient des sacrifices. Des milliers d'animaux offerts en sacrifice. pour finalement se dire « mais il n'y a rien qui change ». Tous les X temps, je reviens apporter un nouveau sacrifice parce que rien n'a changé dans ma vie. Et là, finalement, cet homme voit Jésus et voit ce Jésus qui fait des miracles. Ça change une vie de voir un miracle. Quand vous voyez quelqu'un se lever d'un fauteuil roulant, ça change une vie. Vous dites « attends, mais il y a quelque chose de particulier qui se passe. Jamais on n'a vu une chose pareille. » Ou quelqu'un qui est arrivé alité et il repart sur ses pieds. Ou quelqu'un qui est arrivé avec des béquilles et finalement il remarche mieux que les autres. Et là on se dit « Seigneur, quel miracle ! On voudrait voir tout le temps de ces miracles. Mais est-ce que peut-être on ne fonctionnerait pas sur l'émotionnel ? On serait peut-être convaincu que c'est ça la foi. La foi, ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'émotion. Certes, on a besoin de voir des miracles. Et Dieu demeure le Dieu des miracles. Nous croyons et nous prêchons la guérison divine. Mais là, Jésus a une réponse pour cet homme qui arrive avec un cœur comme ça. Et peut-être que c'était quelqu'un qui avait déjà tenté de suivre quelqu'un d'autre. Parce que l'idée de suivre Jésus était aussi une condition de perspective pour l'avenir. Et ça, je le déduis de la réponse de Jésus. Parce que Jésus lui dira, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Peut-être que cet homme, il s'est dit, voilà quelque chose de bien. Je vais servir Dieu tout en me faisant du bien. Et Jésus lui dit, ben, tu sais, si tu penses que tu vas être au Hilton, si tu penses que tu vas avoir tous les repas bien préparés, il y a Marthe qui est à la cuisine, et Marie qui de temps en temps il se lève pour servir un petit coup, ben Jésus lui dit, tu te trompes. Ah non, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Si un homme qui a des propos très rapides, peut-être qu'il change aussi d'idée constamment, et peut-être que parmi nous, il y en a encore. Et Jacques dira au chapitre 1, versets 5 à 8. Jacques, chapitre 1, versets 5 à 8. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement et sans faire de reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent agite et soulève. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. » Quelqu'un qui est inconstant, c'est quelqu'un qui ne prend jamais de racines. C'est quelqu'un qui, en réalité, ne se développe jamais dans sa vie spirituelle. Parce qu'il change d'idée comme de chemise. On a fait l'expérience avec Elisabeth il y a des années de cela. On avait installé des tuyas. Et une fois qu'on les a installés, 15 jours plus tard, on a changé d'idée. Alors on les a sortis et on les a placés ailleurs. Mais comme c'était notre première expérience, pas content, on l'a encore enlevé de la terre et redéplacé. Au bout de la troisième fois, on s'est dit, on va attendre un peu avant de les installer. Et je peux vous dire que ces pauvres tuyas, ils avaient une tête qui ne donnait pas forcément envie. Hein ? Et à un moment, on s'est dit, bon, il va falloir quand même les installer et ne plus y toucher. Et c'est quand on s'est déterminé, quand on a décidé l'emplacement où il devait aller, que finalement, ces arbres, en ayant pris le temps, ont commencé à développer, à grandir, au point qu'on avait du mal à suivre. Et tous les 6 mois, on était là en train de couper, et ça prenait vite, ça devenait des arbres. Ça pour dire que quand notre vie personnelle est un peu comme ces tuyas, qui changent de peau continuellement, une fois un pot rouge, une fois le pot en terre cuite, ah non, non, en ciment, c'est mieux. OK. Et après, prends-le un peu plus grand, un peu plus petit. Mais en réalité, il ne se développe jamais. Seigneur nous appelle à mettre des racines. Seigneur nous appelle à ne pas fonctionner sur les motifs, sur l'émotionnel. Un jour, quelqu'un est venu me voir à la fin d'un culte et dit « Pasteur, j'avais la chair de poule aujourd'hui. » Et j'ai dit « Ma sœur, peut-être t'étais en plein courant d'air. Change de place. » Parce que ce n'est pas ça qui va déterminer que tu es en train de vivre quelque chose de fort avec le Seigneur. Est-ce que ton cœur a été touché? Est-ce que finalement ton âme a été reprise? Parce que si tout se limitait à avoir la chair de poule, je me dis qu'on devrait être tous dans le courant d'air. Jésus parlera à cet homme d'une manière claire. Si tu veux me suivre, ce n'est pas à cause des émotions. Si tu veux venir avec moi, ce n'est pas pour avoir un avenir que toi tu attends glorieux. Certes, qui veut marcher avec le Seigneur aura un avenir glorieux. Mais peut-être pas ici-bas. Certainement là-haut. S'il aura marché jusqu'au bout, s'il aura couru jusqu'au bout, s'il aura combattu jusqu'au bout. Mais ici-bas, Jésus lui-même dira, ben, tu vois, moi, regarde. Je suis avec les moyens du bord et pourtant, est-ce que Jésus aurait pu avoir de meilleurs moyens? Certainement. Peut-être cet homme cherchait la notoriété, l'accomplissement personnel. Et ça, c'est des mauvaises raisons pour suivre Jésus. J'aimerais vous dire qu'est-ce que ça veut dire suivre Jésus partout. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2, il dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Et courant avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur Jésus qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Ça, c'est la réussite. Ça, c'est ce que Christ nous propose. Ça, c'est « Seigneur, je te suivrai partout ». J'imagine que cet homme qui a dit cette phrase à Jésus n'imaginait pas que Jésus, un jour, il serait passé à la croix. Et là, peut-être qu'en voyant Jésus à la croix, il a dû se dire « Je l'ai échappé belle ». Est-ce qu'il a vraiment échappé quelque chose ? Quand Christ est allé à la croix, ce n'est pas pour lui qu'il y est allé. C'est pour qui? Seigneur, sois béni. Parce qu'il n'a pas regardé à nos refus ou à nos motivations parfois décalées, mais il a regardé à ce que son amour allait produire dans notre cœur. Amen. Alors la parole de Dieu nous invite vraiment à rejeter tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement. J'ai une image avec ça. L'été arrive. Les mouches aussi. Et vous avez vu dans les maisons, parfois il y en a qui sur les vérandas installent ces... Ce petit bout de papier gluant, et quand la mouche se pose, alors moi, quand je lis ce texte, j'ai cette impression de quelque chose qui nous enveloppe si facilement. Vous savez, à la base, ce papier est un produit qui attire les mouches. Et le péché attire les hommes. Mais une fois qu'ils ont mis les pieds dessus, ils ne peuvent plus s'en décoller. C'est une image. Si vous en trouvez d'autres, je suis prêt à les écouter. Deuxième question, et là c'est Jésus qui interpelle un homme. Et lui dit, suis-moi. Un appel très court. Suis-moi. Jésus ne va pas lui faire une liste. Il ne va pas lui dire « voilà ce que tu vas gagner ». Jésus ne va pas lui dire « voilà la place que tu auras ». Jésus lui dit « suis-moi ». Si quelqu'un aujourd'hui nous disait « suis-moi », est-ce que ça nous suffirait pour dire « oui, allez, je quitte tout » Mais Jésus, c'est ce qu'il vous dit encore ce soir. Suis-moi. Oui, mais Seigneur, tu sais, attends, il faudrait quand même qu'on en parle un peu. Parce que tu vois, la retraite, elle va reculer. Si je viens dans le ministère, est-ce que ma retraite va anticiper ? Seigneur, est-ce que j'aurai un véhicule de fonction ? Et Jésus regardait ses sandales en disant, mais tu sais, moi, mais mon véhicule de fonction, il est là. Hein ? Suis-moi. C'est court qu'on m'appelle. Combien de questions seraient posées nous-mêmes en disant, si le Seigneur, ce soir, nous disait, suis-moi. Quelle est la question que vous vous posez en premier ? Ou peut-être, à l'image de cet homme, et il répondit, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Hein, une belle réponse. Nulle part c'est écrit que le papa était décédé. Mais Jésus leur dit, laissez les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Généralement, quand quelqu'un attendait le décès d'un parent, c'était pour l'héritage, non ? Alors peut-être que cet homme attendait l'héritage. Il dit, tu sais, Seigneur, papa, il n'est pas loin. Bientôt, il va retrouver la patrie céleste. Et pour moi, c'est l'héritage terrestre. Hein ? Et si on pouvait aménager le chou et la chèvre ? Parce que l'être humain aime bien aménager les choses. Et même quand le Seigneur nous dit, suis-moi, nous, on essaie de trouver la manière d'aménager les choses pour ne perdre nulle part. Mais Jésus lui dit, suis-moi. Abandonne ce que tu es en train de faire. Suis-moi. Laisse tomber ce que toi tu vois comme un héritage, comme quelque chose qui va être un aboutissement pour ta vie. Le véritable aboutissement, c'est avec Jésus. Suis-moi. Ah, combien d'excuses on aurait pu trouver. Et lui, il en trouve une quand même qui n'est pas mal. Permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Actes chapitre 26. Versets 17 et 18 nous expriment qu'est-ce que ça veut dire cet appel de Jésus, suis-moi. Acte 26, versets 17 et 18. Je t'ai pris du milieu de ce peuple et de païens, vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Jésus propose encore ce soir un héritage le meilleur. Celui qui est réservé à ceux qui sont sanctifiés par la foi en Jésus-Christ. Quand Jésus nous a envoyer cet appel « suis-moi », c'est quelque chose dans laquelle le Seigneur veut nous sortir d'un milieu pour nous mettre sur une autre position, pour nous donner un éclairage différent, pour nous permettre d'avoir un message percutant. Et ce message, on n'est pas seulement question de parole, c'est question de le vivre avec Jésus. Parce que comment dire à quelqu'un « quitte tout et suis Jésus » sinon on ne le fait pas. C'est facile de dire aux autres « quitte tout et suis Jésus » alors que nous, on n'a renoncé à rien. On n'a rien quitté, ça ne nous a rien coûté. Voire même, on a fait du bénéfice. Parce que moins il y en a sur le terrain, plus on y gagne. Non ? Mais là, Jésus, ce n'est pas le discours qui tient. Il y a un autre texte, 1 Pierre chapitre 1, versets 3 et 4, qui parle aussi d'héritage. Et il dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. Amen. Ah, si on parlait d'héritage ce soir, qui aimerait bien hériter ? Hein ? Vous savez, quelqu'un qui vient frapper à votre porte et qui vous dit, voilà, votre tonton d'Amérique ou d'Australie, si vous préférez, hein, vient de vous laisser une petite fortune. Une petite fortune. Ah ben là, je pense que la porte, elle s'ouvre vite. La machine à café est vite branchée. Asseyez-vous, dites-moi tout. Alors, il commence à vous lire tous les articles de loi. Non, 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 laissez tomber ça. Combien ? Combien ? Combien je vais y gagner ? Qu'est-ce que j'ai hérité ? Est-ce que nous, on est en train de dire au Seigneur, Seigneur, quel bel héritage ? Quel bel héritage pour quelqu'un qui, en effet, va quitter ses terres comme il est venu ? Qu'est-ce qui nous permettrait aujourd'hui véritablement d'avoir un héritage dans le ciel ? On n'y a pas droit. Si ce n'est par Jésus-Christ et que lui nous offre un héritage, c'est lui qui nous offre une occasion de devenir héritier, co-héritier de Christ, hériter avec Jésus. Ah, ça vous intéresse ? Ben, il faut suivre Jésus. Il faut mettre de côté tout ce qui pourrait nous sembler peut-être une réussite immédiate. Il y a des héritages qui se transforment, vous savez, en grande souffrance. Il y a des héritages qui parfois laissent un goût amer. Ou parce que la personne, elle pensait véritablement gagner beaucoup et à la fin, il n'a eu que les dettes. C'est aussi un héritage. Ça peut être en positif, en négatif. Et déjà, je peux vous dire qu'en tant qu'être humain, on a un héritage négatif à cause du péché, à cause du péché du premier homme, à cause de l'humanité tout entière. Et on a besoin de passer à autre chose, on a besoin de vivre autre chose. Et si le Seigneur encore ce soir fait retentir cette phrase dans votre cœur, « Suis-moi », c'est parce que ce qu'il nous propose est nettement supérieur que tout ce que le monde pourrait nous donner. Troisième. Alors là, moi j'ai vu l'esprit cartésien. Si le premier était quelqu'un d'émotionnel, si le deuxième c'était quelqu'un avec un attachement à l'héritage, le troisième il est cartésien. Un autre dit, je te suivrai Seigneur. Lui vient. Ce n'est pas Jésus qui lui dit, ou il a entendu cet appel de Jésus. Et comme là, lui dit, ben, attends que j'aille ensevelir mon père, il dit, mince, celle-ci, je ne peux plus l'utiliser. Je suis étonné parfois quand on dit, ben, qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur pour vous cette semaine ? Les premiers, ils se lancent et utilisent des phrases. Mince, il a dit ce que je voulais dire. Moi, je vois les réactions. Hein ? C'est vrai ou pas ? Et là, peut-être que cet homme, il s'est dit, ben, ça y est, il m'a piqué l'idée, elle était bonne, celle-ci. Mais bon, vu la réponse de Jésus, hein, laisse les morts ensevelir leurs morts, laisse les œuvres mortes de ce monde à ceux qui veulent y rester attachés jusqu'au bout. Mais toi, va et prêche le royaume des cieux. Il y a des œuvres mortes auxquelles le Seigneur voudrait nous soustraire. Il y a des œuvres mortes qui ne porteront aucun fruit. Je me rappelle la première fois qu'à l'école, on m'a fait faire un dessin. C'était une œuvre morte. Et moi, la maîtresse, il me dit, vous allez dessiner une œuvre morte. Et moi, j'ai fait une pierre tombale. J'ai lui dit, plus mort que ça, vous ne pouvez pas, madame. Hein, c'est simple. Ça, jusque-là, j'y arrivais. Après, moi, en dessin, je suis nul. Il m'a dit, l'idée, elle est bonne, il faut développer. J'ai dit, je ne vais pas vous faire tout le cimetière, madame, quand même. Parfois, on est attaché à des œuvres mortes. Les autres, ils les ont fait avant nous et nous, on continue. Ça ne portera pas de fruits, mais on continue parce que ça fait partie aussi de l'héritage. Les autres avant nous, ils l'ont fait et nous, on continue. Même en sachant que ça ne produira rien. Et le troisième, je te suivrai, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas bon pour le royaume de Dieu. Encore une fois, un cœur partagé entre Christ et le monde. Un cœur sur un pont au-dessus d'un précipice. Étrange image. Alors parfois, nous, on aimerait pouvoir garder un pied d'un côté et un pied de l'autre. Voire assis entre deux chaises. Ça peut aller un petit moment. Hein, quand on ne va pas trop bien, Seigneur, je suis assis à côté de toi. Tiens-moi par la main. Ah, qu'est-ce que je suis bien avec Jésus. Et après, quand ça va mieux, Seigneur, bouge pas. Je reviens très vite. Hop. Un pied dans le monde. De Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et des idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et moi, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Pas de double nationalité. Pas de double passeport. Quand je suis arrivé en France en 2001, j'avais une situation un peu ambiguë. Je vous explique. Tous mes papiers étaient italiens. Je vivais en France et je travaillais en Suisse. À moi seul, j'étais l'Europe. Ils y sont quand ça les arrange. Hein? Et donc, la situation faisait que, je me disais, c'est à chaque fois que je me faisais arrêter, le temps qu'ils fassent le contrôle de toutes les nationalités, je dis, un jour, il faudra quand même que tu règles ce problème. Alors, l'esprit italien, mais je me rends compte que c'est un esprit international, je me suis dit, c'est bien. Je vais avoir deux permis de conduire, un français, un italien. Si je prends un PV, ça sera celui italien, comme ça on ne me retire pas les points en France. Et si je conduis bien, c'est le français que je sors. C'est le raisonnement humain. Jusqu'au moment où, une fois où j'ai passé les papiers, on me dit maintenant, vous nous donnez votre permis italien. Je dis, mais non, il est à moi. En plus, je suis beau sur la photo. J'aimerais le garder. Il dit, ah non, c'est là. Ou l'autre. Bien des fois dans notre vie, on raisonne en essayant de gagner sur tous les tableaux. C'est vrai ou pas? Imaginez quelqu'un qui coupe un gâteau devant vous. Alors l'humilité fait que vous décidez de prendre le plus petit morceau. L'humilité. Mais le cœur. Les yeux. Hein? Jean-Marie. Il y a les yeux qui brillent, Jean-Marie. T'as raison, moi aussi. Ah, c'est les yeux, Jean-Marie. Mais le cœur, il y est. Parce qu'on se dit, ben écoute, hein, ça serait pas mal. L'humilité fait que, mais bon, soyons humbles et fiers de l'être. Non? Combien de fois dans notre vie on voudrait tout? Ce que Dieu nous demande, ce que Dieu nous propose, la bénédiction de Dieu, et ce que le monde nous propose. Eh bien, Jésus, dans ce qu'il dit, il est clair. ne peut pas y avoir de mélange. On ne peut pas être assis entre deux chaises. On ne peut pas, et on ne devrait même pas aspirer à vouloir faire quelconque lien qui nous amène à avoir un cœur partagé. Parce que à quel moment finalement on sera totalement à Christ ? Je vous disais au début de ce message, la réflexion de cette semaine a été, est-ce que je connais vraiment Jésus ? Si je connais Jésus, si je connais son amour, je considère que c'est ce que j'ai de plus précieux, non ? Et que je désire cette relation personnelle. Et Christ veut une relation exclusive avec lui. Et Christ est capable de donner cette relation exclusive avec chacun de nous. Mais quand quelqu'un est capable de partager la personne aimée avec quelqu'un d'autre, vous m'excusez, ce n'est pas de l'amour. Il y a un problème. Et comment Christ pourrait accepter de me partager avec quelqu'un qui, en effet, veut que me détruire, veut que mon mal, veut que m'amener en réalité à me détacher de Christ ? Jusqu'à où j'aime Jésus ? Jusqu'à où j'ai compris le sacrifice de Christ ? Alors la parole de Dieu nous invite à prendre un choix, à faire un choix. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et moi, je vous accueillerai. Des mains propres, des mains pures. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Si on suivait le calendrier, aujourd'hui, on se dirait que c'est le jour où il faut se rappeler du sacrifice de Christ. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on s'en rappelle tous les jours. Il n'y a pas une date précise, n'est-ce pas ? Mais si vraiment on voulait rester logique et cartésien, aujourd'hui, le monde devrait pleurer, non ? Les hommes devraient être en deuil en disant « Mais qu'est-ce qu'on a fait, nous, à crier « Crucifie-le !» » Non ? Et pourtant, aujourd'hui, les hommes sont occupés à la joie. Ils sont occupés à plein de choses pour éviter de penser à la réalité, cet amour profond de Jésus-Christ. Et je vous dis sincèrement, réfléchissons à la motivation de Christ. Je comprends toujours plus que Jésus n'avait aucune raison personnelle pour lui. Il gagnait rien du tout d'aller à la croix. Il avait déjà tout. Fils de Dieu, régnait dans le ciel, toute autorité, toute puissance. Qu'est-ce qui manquait à Jésus ? Alors pourquoi Jésus est venu ? Oui, ok, faire la volonté de son Père. Très bien. Mais qu'est-ce qui a conduit le cœur de Jésus à dire, Père, je vais payer le prix. Vous et moi. Vous et moi. Pour chacun de nous. Pour chacun de nous, à chaque moment où Jésus a souffert à la croix, il a pensé à chacun de nous. À chaque instant où son sang a coulé, Jésus a pensé à chacun de nous. À chaque coup qu'il a pris, il a pensé à chacun de nous. Et cet amour était tellement fort qu'il n'a pas hésité à aller jusqu'au bout. Ça, c'est de l'amour, n'est-ce pas ? Ça, c'est de l'amour. Et là, je me dis, Seigneur, est-ce que moi, je vais être capable de t'aimer ? Comme toi, tu m'as aimé. Qu'est-ce que le monde pourrait m'offrir qui vaudrait plus que ton amour ? Alors, Seigneur, encore ce soir, tu dis, suis-moi. J'ai tout à gagner à le faire. Non ? Qu'est-ce que je peux y perdre ici-bas ? Les richesses ? Plus on est riche, plus on paie d'impôts. De Corinthiens 7, c'est le dernier verset, le verset 1, 2 Corinthiens 7, verset 1, dit « Puisque nous avons de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute sûre, de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. Peut-être ce soir, il y en a qui ont déjà eu cet appel de la part de Dieu. Suis-moi. Moi, je sais que le Seigneur n'a pas hésité à plusieurs reprises à me dire « Suis-moi ». J'ai eu du mal parce que je faisais mes calculs. J'étais un peu celui émotionnel. Il y avait des moments où mon cœur était aux miettes. J'avais fait des mauvaises expériences et là, j'avais besoin de Jésus. Et Jésus est venu à mon secours et après... Je suis reparti comme avant. Il y a eu des moments où j'ai fait mes calculs. Est-ce que je gagnerais plus à marcher avec Jésus alors je ne dois plus voler, je ne dois plus faire ceci, je ne dois pas tricher? Mais c'était tellement facile de tricher, tellement facile de voler. Je pensais un héritage qu'en effet ne laisse que miettes et poussière en les mains. On a tous fait peut-être aussi cette pensée très cartésienne. Seigneur, laisse que je puisse aller voir les uns et les autres, m'occuper des uns et des autres, prendre congé des uns et des autres, et après je te suivrai, Seigneur. J'ai des responsabilités dans ce monde, après je te suivrai, Seigneur. Et si le Seigneur, ce soir, il est encore en train de frapper à notre cœur, parce que c'est à la porte de notre cœur que Jésus frappe. C'est parce que le temps est court et que sa bonté, sa miséricorde et sa patience sont encore là. Mais pour combien de temps? Alors ce soir, juste cette parole. Suis-moi. La réponse n'est pas à moi de la donner pour vous. C'est à vous de la donner à Jésus. Il y a des réponses qui ont été déjà prises. Si vous avez d'autres excuses, à vous de les présenter. Mais si ce soir vous prenez conscience que le meilleur choix, c'est d'aller avec Jésus, alors dites dans votre cœur, Seigneur, me voici. On va fermer nos yeux, on va incliner nos têtes. Et peut-être que pendant ce temps de prière, juste ce temps d'appel, quelqu'un voudrait dire, Seigneur, je suis prêt à te suivre. Seigneur, je ne veux pas te faire de promesses que je ne serai pas capable de tenir sans ton aide, sans ton secours. Mais Seigneur, donne-moi de garder les yeux fixés sur toi. Seigneur, je te prie qu'encore ce soir, tous ceux et celles qui répondent, Seigneur, à ton appel, suis-moi. Seigneur, ils ne répondent pas par une excuse quelconque, mais puissent dire, Seigneur, tiens ma main serrée à la tienne, s'il te plaît. Prends-moi dans tes bras, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je ne suis pas capable tout seul, mais avec toi, oui, Seigneur. Seigneur, je te prie encore ce soir pour tous ceux et celles qui ont besoin, Seigneur. Seigneur, encore de te dire, Seigneur, je veux te suivre. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Je veux laisser tomber, Seigneur, toutes les excuses que j'avais pu peut-être imaginer, Seigneur. Et encore ce soir, Seigneur, purifie-moi. Seigneur, viens, Seigneur, encore par l'action, Seigneur, du sang versé à la croix, Seigneur, purifier nos cœurs. Viens laver nos consciences et nos cœurs, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, d'être transformés, purifiés, sanctifiés, Seigneur, pour avoir part à cet héritage céleste. Mais dès à présent, Seigneur, être de ceux, Seigneur, qui annoncent l'Évangile, qui annoncent la bonne nouvelle. Seigneur, merci de nous retirer, Seigneur, de ce monde de péché pour nous amener à être, Seigneur, oui, tes imitateurs. Être de ceux qui, Seigneur, agissent avec cette obéissance au Père, avec ce désir, Seigneur, de voir des âmes être sauvées, Seigneur, au prix de la propre vie, Seigneur. Merci, Seigneur, encore pour le sacrifice que tu as accompli il y a 2000 ans à la croix. Seigneur, ton sacrifice a changé notre vie. Et encore ce soir, Seigneur, ce sang qui a coulé, Seigneur, une fois pour toutes, change encore des cœurs et des vies, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous faire passer de la mort, Seigneur, à la vie éternelle. Merci encore pour le pardon des péchés, Seigneur. Merci encore pour la guérison divine, Seigneur. Merci pour la délivrance, Seigneur. Merci de libérer encore les cœurs qui sont dans l'angoisse, Seigneur. Merci encore ce soir d'œuvrer. et de te présenter à chacun, Seigneur, et que chacun de nous puisse mieux te connaître, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas nous limiter, Seigneur, à connaître celui qui nous apporte un bien, Seigneur, celui qui change notre vie pour nous accorder du meilleur, mais nous voulons te connaître aussi comme celui qui est le seul Sauveur, le seul Seigneur, celui qui, lui seul, a des paroles de vie, Seigneur. Nous aussi, nous voulons te dire, Seigneur, à qui irions-nous ? Toi seul as des paroles de vie. Alors, Seigneur, que ta parole, Seigneur, et aussi, Seigneur, la connaissance de ta personne, puisse nous amener à grandir avec toi, Seigneur. Révèle-toi au cœur, Seigneur, te le demandons, Seigneur, encore, notre Dieu, notre Père, dans le nom précieux de ce Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ.